chers auditeurs de Autant de livres, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons cet automne. Vous entendrez dans cette émission successivement la voix de Patrick de Merler qui vous parlera de son ouvrage consacré à la vie de Louis Germain, l'instituteur d'Albert Camus. L'historien et romancier Georges Patrick Glaise évoquera pour vous ses récentes parutions. L'auteur et illustratrice Gabor remontera, elle, à la genèse du personnage qu'elle a créé. Enfin, l'écrivaine ariégeoise Djala Maria Longa reviendra sur ce qu'elle a intitulé « Mon enfance sauvage ». Entre ces interviews, deux pauses musicales vous permettront de vous délecter d'un extrait de deux compositions de Gabriel Fauré, natif de Pamiers. Pour vous, chers auditeurs, une idée de sortie littéraire et patrimoniale pour le dimanche 24 octobre, la journée des auteurs à 14h30 au château d'Agutz, dans le Tarn. Des auteurs de la région seront là pour vous y accueillir. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la récente publication de l'ouvrage de Véronique Osépi-Chavagnac, une publication de la Société d'Histoire de Revel-Saint-Féréol. Ce livre ne parle pas de vieilles pierres, mais des personnes qui les ont aimées et fait vivre. Deux familles, les Rigaud de Vaudreuil puis les Davessins de Saint-Rome, depuis le XIVe siècle. La précision historique qu'ont permis 40 ans de recherche se conjugue au désir de laisser imaginer par le lecteur le caractère et l'apparence des personnages. Alain Chavagnac, membre de l'Association des Amis d'Agutz, a de son côté publié deux ouvrages, le premier sur l'économie du domaine à l'époque de la Révolution, Agutz, un grand domaine en Midi-Pyrénées, s'intitule-t-il. Il est paru aux éditions Baudelaire, et puis aussi un fascicule sous sa signature sur la famille Davessins, les Davessins.
Vous êtes bien sur Air d'Autant dans l'émission Autant de livres. Nous sommes à Massat, en Ariège, en compagnie de l'auteur Patrick de Merler, qui porte un joli nom flamand, mais qui est français comme tout un chacun ici, je dirais. Et le Salon du Livre de Massat va commencer dans quelques instants. Alors, Patrick de Merler, vous allez présenter un certain nombre de livres. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, d'ailleurs. Lesquels mettez-vous le plus en avant aujourd'hui, en ce beau dimanche ?
Alors aujourd'hui, le livre que j'ai envie de mettre en avant est le dernier paru, qui se trouve être une biographie. La biographie de Louis Germain. Louis Germain, tous les Camusiens, les gens qui s'intéressent à Albert Camus, et aussi les enseignants, beaucoup d'enseignants, connaissent le nom de Louis Germain, puisque c'est l'instituteur qui a permis à Albert Camus d'accéder au lycée, puis de faire les études qu'il a fait. Et toute sa vie, Albert Camus aura une reconnaissance indéfectible envers Louis Germain, qu'il appelait « mon père spirituel », car il estimait que sans lui, il n'aurait pas eu ce destin. Et d'ailleurs, il lui a dédicacé ses discours du prix Nobel, qui sont composés de deux parties, le discours lui-même, plus une conférence qu'il a fait à l'université d'Uppsala. Et donc, ces deux textes, enfin, oraux mais écrits, ont été publiés chez Gallimard, avec cette dédicace à Monsieur Louis Germain. Ce qui est assez remarquable, c'est le monsieur, quoi. Le voilà. Monsieur, chose qu'il n'a pas fait pour d'autres, comme Urgon, qui était un ami personnel, etc. Voilà. C'est le livre que je mets en avant aujourd'hui. Et c'est la seule biographie que j'ai écrite, parce que j'écris plutôt des romans et des nouvelles. même des fois des récits autobiographiques. Voilà. Donc,
alors, dites-nous là, ce livre, qui est un livre important compte tenu de l'histoire qu'il raconte, de la vie qu'il raconte, il est paru aux éditions.
Alors, il est paru aux éditions Domins. Oui. Alors, l'édition Domins, c'est pas n'importe quelle maison voilà. d'édition. C'est Monsieur Domins, c'est le successeur d'Edmond Charlot.
Qui lui-même.
Et Edmond Charlot était donc le premier éditeur d'Albert Camus à Alger. Alors, dès 1936, je crois qu'il avait publié L'Envers et l'Endroit, et puis d'autres livres et d'autres textes, notamment des pièces de théâtre aussi, signées Albert Camus.
Belle histoire que ce livre, sa genèse, et puis évidemment ce qu'il raconte.
Son contenu.
Oui, et puis alors, Patrick de Merler, vous présentez notamment un livre dont le titre est une sorte de clin d'œil, peut-on dire, puisque c'est Le Belge égaré en Ariège. Alors d'abord, vous n'êtes pas du tout égaré, vous ne faites pas l'impression de quelqu'un d'égaré, loin s'en faut. Et puis surtout, vous n'êtes pas belge, mais vous avez des racines belges. Et comme tout le monde continue de vous nommer le Belge, de vous surnommer le Belge, vous êtes dit, bon, bah, j'y vais, autant aller dans le sens de la pente. Et vous avez collecté des nouvelles. Alors, ils sont sur le thème de la belgitude ou pas ?
Non, absolument pas. Le rapport avec la Belgique, c'est l'humour. Voilà, l'humour belge, hein, comme chacun sait, l'humour belge, c'est plutôt l'autodérision. Hein, plutôt que de se moquer des autres, on se moque de soi-même. Et donc, Le Belge égaré en Ariège, c'est un titre qui m'a été donné parce que je suis randonneur, je parcours les Pyrénées, et donc les amis, ils considèrent que pourquoi je suis en Ariège ? Parce que je suis le Belge qui n'a pas trouvé Andorre. Voilà. Donc c'est une blague. Voilà.
Facile,
mais voilà. Mais c'est pas d'humour belge, ça. Non, hein, c'est d'humour français, vraiment.
Oui, oui, ils sont les Belges, justement. Oui.
Contre. Voilà. Oui. Alors donc ce recueil de nouvelles rassemble 10 nouvelles qui ont comme point commun la montagne, les Pyrénées, la montagne et Pyrénées. D'ailleurs, il est sous-titré et autres divagations pyrénéennes. Voilà.
Toujours les divagations.
Donc, voilà. Errance, alors donc des histoires de randonnée, des histoires de montagnes, de rencontres surtout, et puis ce que je me suis attaché à faire, c'est dépeindre des caractères à travers leur réaction face à l'adversité, soit voilà. Météorologique, soit la pente, le relief, les cailloux, etc. Et donc mon Belge, là, finalement, c'est un vrai Belge dans cette histoire, et il voulait vérifier que le ciel des Pyrénées était aussi bleu que sur les photos, que son parrain lui avait offert, puisqu'il avait travaillé sur les barrages ici, il y avait des beaux ciels bleus, et il voulait vérifier. Il est venu, et il a pu vérifier.
Vous qui êtes quand même un peu biculturel, on va dire au moins par vos origines, est-ce que vous diriez qu'il y a une façon belge de répondre à l'adversité, de faire face à la difficulté ?
Oui, je crois que c'est la dérision.
La dérision.
Oui, la dérision.
Et qui va jusqu'à l'autodérision.
Jusqu'à l'autodérision. Ouais. Hein. Par exemple, il y a une histoire qui circule en Belgique, c'est les terroristes qui ont tué la moitié d'un centre commercial. Et donc, un Belge interrogé, il dit « Oui, mais ils savent rien faire complètement. Hein. »
Merci Patrick. Oui, on peut rire de tout, ça dépend avec qui. Avec Patrick, en tout cas, Patrick de Merler, on peut rire de tout avec
oui,
vous.
Oui, oui, oui. Merci. On peut être sérieux aussi.
On peut aussi être sérieux, bien sûr. C'est un auteur sérieux, bien sûr, chers auditeurs.
Vous êtes bien sûr R d'OTAN dans l'émission Autant de livres.
Oui, sur le salon du livre de Massat, il y a aussi un auteur qu'on ne présente plus, Georges Patrick Glaise. Tout le monde connaît son livre emblématique, c'est lequel, rappelez-nous
Le temps en héritage, bonjour. Le temps en héritage, c'est le premier roman que j'ai écrit, et c'est avec celui-là, d'ailleurs, que je suis rentré en littérature, aux éditions Albin Michel.
Il y a combien de temps de ça ?
20 ans.
20 ans.
20 ans.
Ah oui, une somme de bonheur, parce voilà. qu'il y en a eu beaucoup après.
Après, il y en a eu 20 depuis, un par an à peu près.
Voilà.
Un par an, 20, et le dernier qui va sortir dans quelques semaines, qui s'appelle La montagne des autres, et qui, par un curieux hasard, a une couverture qui rappelle celle du temps en héritage.
Ah, très bien. Donc, voilà. La boucle est bouclée. Non, au moins graphiquement.
Pas tout à fait, parce que je continue à avoir des idées et des scénarios dans la tête.
Beaucoup sous le coude.
Pas mal. Assez pour tenir encore quelques années.
Ça s'arrête pas.
Dans
hein.
le paysage littéraire, voilà.
C'est comme dans les montagnes. C'est une passion.
Donc, on écrit parce qu'on en a besoin, parce que c'est une envie. Ça correspond à un besoin personnel, interne, et ça s'explique pas. C'est des émotions que j'ai besoin de sortir, etc. Voilà, c'est lié à ça.
Et là, sur le salon du livre de Bassat, où vous avez un stand, quels ouvrages mettez-vous en avant?
Alors, cette année, je mets en avant deux ouvrages. D'une part, le roman que j'ai fait paraître chez Calvin Lévy l'an passé, en septembre, qui s'appelle « Même les pierres ont une histoire », qui raconte, c'est la saga, en fait, de compte une famille de notables, de hobereaux, tout au cours du XXe siècle, de 1900 à nos jours, avec les itinéraires par lesquels ils passent, les oppositions, les contradictions qui sont les leurs, la déliquescence aussi petit à petit sociale qui est la leur et qui les affecte, et toute la révolution sociale et psychologique, pris dans les tourments de l'histoire, la grande, bien sûr.
Bien sûr.
Et puis également, je vous mets en avant, alors, ce n'est pas un roman, mais qui est un livre beaucoup plus différent, un livre d'histoire, qui est paru au mois d'avril 2021, aux éditions Le Papillon Rouge, qui s'appelle César Liégeois, qui ont fait l'histoire, et qui est une série de 50 courtes biographies d'Ariégeois célèbres et souvent oubliés, qui ont marqué l'histoire de la France et de leur pays, et qui ont fait la gloire de l'Ariège.
Ouais, et qui ont eu parfois même une notoriété internationale.
Alors, une notoriété internationale, je pense vraiment à Paul Cojol, Paul Cojol qui est le fondateur de l'Ordre des experts comptables européens.
Et oui.
Bon. Et alors, bien sûr, tous les personnages qui sont là-dedans sont décédés, donc on n'y trouvera pas de contemporains immédiats, mais ce sont des gens qui ont vécu au 19e et 20e siècle. Alors, il y a des militaires, il y a comme par exemple Justin Lafitte, il y a des créateurs comme Lacanal, qui est le créateur de l'école publique. Il y a également des écrivains comme Raymond Escolier.
Oui.
Il y a aussi des peintres comme Magui de la Girodière.
Voilà.
Il y a des résistants comme Irénée Cros.
Oui.
Il y a également des résistants politiques comme François Camel. Il y a également des philosophes comme Pierre Bayle,
bien sûr,
l'apôtre de la tolérance.
Oui.
Et voilà, donc c'est un panorama assez varié de gens qui sont peu connus. Je pense par exemple à celui qui a été le créateur de Dakar, le fondateur de Dakar, Pierre Laprade, que personne ne connaissait ou pas, donc que j'ai ressorti un peu du néant. Et puis des gens aussi que l'on a eu tendance à oublier, comme Philippe Tissier, qui est le pionnier du sport scolaire, qui est le Coubertin du sport scolaire, et qui est passé un peu à la trappe, parce qu'il était à une époque où on a associé les valeurs qu'il défendait du sport scolaire, la gymnastique, à une certaine idéologie
du Reich, qui
était un peu trop dans l'exaltation du corps.
Et donc,
il est passé un peu à la trappe injustement, alors qu'il n'avait jamais eu manifesté d'idée dans ce sens-là. Il était simplement dans l'éthique du sport.
Voilà. Merci. Donc, cet ouvrage dont on vient de parler.
César Liégeois qui ont fait l'histoire, aux éditions Le Papillon Rouge.
Oui, avec des portraits hauts en couleur de personnages qui ont une vie, une carrière assez exceptionnelle en général, mais qui sont plus ou moins tombés dans l'oubli.
Dans l'oubli.
Je dis bien plus ou moins parce que certains sont encore largement connus.
Bien sûr.
Voilà. Merci Georges Patrick.
Merci beaucoup. Thank you.
Vous êtes bien sur Air d'Autant dans l'émission Autant de livres.
Oui, alors, sur le salon du livre de Massat, où nous sommes avec quelques auteurs que nous avons rencontrés au fil du temps, se trouve aussi la maman spirituelle de Bidouille. Alors Bidouille, c'est un petit personnage très charmant, qu'aiment surtout les enfants. Les enfants, entre quel âge et quel âge, Gabor ?
Alors, Bidouille, en fait, c'est un petit personnage que j'avais créé quand j'avais une quinzaine d'années. Et oui, il s'adresse pour des enfants de 2 à 7 ans, jusqu'à l'âge de l'apprentissage de la lecture.
Vous vous nommez Gabor, c'est un nom de plume.
Oui, en fait, Gabor, c'est un nom que... C'est la première syllabe de mon nom de jeune fille et la première syllabe de mon nom d'épouse, en fait, que j'ai pris quand je me suis mise artiste peintre.
Alors dites-nous, Gabor, qu'est-ce qu'il fait, Bidouille ?
Bidouille, en fait, c'est un petit personnage naïf qui va essayer au fil des saisons d'apprendre la notion du temps qui passe aux enfants. Et aussi, son premier ami, c'est un arbre. Et c'est pour montrer qu'un arbre, c'est précieux. Donc, l'arbre lui donne des fruits au printemps, le protège du soleil en plein été et le protège du froid en hiver.
Non, lui va comme un gant parce que il est à la fois adroit et peut-être de temps à autre maladroit.
Oui, et il est souple, il est un petit peu naïf. C'est un petit personnage, qui fait référence à l'enfance et que j'ai essayé de créer avec des yeux d'enfant.
Alors vous l'avez créé tant en termes de dessin de couleurs très très joli. Là, nos auditeurs ne peuvent pas les voir, mais dès qu'ils pourront voir le livre, ce sera une évidence pour eux. Et puis en termes d'histoire, de scénario, puisque vous avez écrit aussi vos textes.
Oui. Pour Bidouille, oui, j'ai écrit l'histoire. En fait, ça me tenait à cœur parce que maintenant je suis grand-mère, j'ai 2 petits-fils et ça me tenait à cœur vraiment de mettre ce petit personnage que j'avais créé quand j'avais une quinzaine d'années, de lui donner vie.
Et Bidouille, ces histoires s'adressent à quelle tranche d'âge ?
Les enfants qui sont en apprentissage de lecture, oui, la maternelle et puis le début de
CP,
l'apprentissage.
Oui,
voilà, c'est ça.
Maternelle, CP et puis un petit peu après.
Oui, CP, c'est jusqu'à 6-7 ans.
On le trouve où, ce livre ?
Alors, Bidouille, on peut le trouver donc à mon atelier, mais on peut le trouver aussi à Pamiers, à la librairie des temps modernes, à Sobio aussi, à Pamiers, et puis aussi sur Internet.
Oui, donc en fait partout.
Pas tout à fait encore,
pas tout à
mais...
fait. D'accord. Et alors, vous avez écrit et publié, dessiné donc aussi d'autres ouvrages. Vous pouvez donner rapidement quelques titres.
Alors, les autres ouvrages, en fait, je n'ai pas écrit les textes, mais j'ai créé les personnages et j'ai fait les aquarelles.
Car c'est votre spécialité, l'aquarelle.
Oui, depuis 2007, en fait. Je suis artiste peintre.
Aquarelliste.
Qui peint à l'aquarelle, oui.
Dites très bien. Grand merci à vous, Gabor.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Vous êtes bien sur Air d'OTAN dans l'émission OTAN de livres. Nous sommes ce matin au salon de Massad, toujours, aussi en compagnie de Djala Maria Longa, une auteure qui a gagné une formidable notoriété, pas seulement dans son département ni dans sa région, mais au plan national, parce qu'elle a commenter, raconter ce qu'elle a appelé, d'un beau titre, « Mon enfance sauvage ». C'est un livre, son premier livre, de mémoire, de souvenirs, de vécu, livre paru chez Glénat, mais c'est le premier d'une longue série, n'est-ce pas, Djala ?
Oui, tout à fait, bonjour. Et ben, du coup, « Mon enfance sauvage », il est sorti en 2011, et effectivement, depuis ce livre-là, qui raconte mon enfance, j'en ai fait, donc je suis au 9e.
Et le 9e, c'est « Équilibre », un beau titre, mais qui recouvre quoi alors ?
Alors c'est un petit peu, ça pourrait faire une boucle. Mon enfance sauvage, ça parlait uniquement de ma famille, de notre enfance sauvage en autarcie. Et depuis, je fais de nombreuses conférences, dédicaces, et on me dit toujours, on m'a toujours dit, mais vous n'étiez pas les seuls à vivre comme ça, il y en a eu d'autres. Que pensaient les autres enfants qui ont été, eux, à l'école, contrairement à vous ? Comment ça s'est passé ? Quelle relation ils avaient avec les gens de l'extérieur ? Et en fait, à force d'entendre tout le temps ces retours-là, je me suis dit, mais il y a un livre à faire. J'ai beaucoup d'amis qui ont été à l'école ou pas, qui ont eu des enfances différentes. Il y en a qui étaient dans l'extrême, d'autres moins. Et voilà pourquoi équilibre, parce qu'on se rend compte, donc il y a 17 témoignages et 17 chapitres. En fait, chaque chapitre représente un témoignage. Donc de personnes qui ont vécu différemment, et c'est très intéressant parce qu'en fait on les suit au départ dans leur petite enfance, et aujourd'hui elles ont 40 ans, elles sont parents à leur tour. Pourquoi équilibre ? Parce qu'elles cherchent l'équilibre et qu'elles se rendent compte seulement aujourd'hui que leurs parents ont cherché aussi de l'équilibre. Bon, parfois l'équilibre était extrême, mais voilà, c'est difficile de le trouver.
Une quête de nouvelle vie. Alors, il faut dire que dans ce livre, le Massat, le Couseran, a des allures de plaque tournante, justement, de toutes ces quêtes, de toutes ces utopies. Comment renouveler l'existence ? Les gens qui passent, vous en donnez les témoignages, mais on les voit aussi parfois repartir, pas seulement démissionner de cette quête, mais aller à l'extrême. Il y en a une, je crois, hein, sauf erreur, vous allez me le dire, qui part pour l'Amazonie à un moment donné. C'est quand même pas rien. L'Ariège est fait figure là de plutôt de petits paradis naturels. L'Amazonie peut-être un peu moins. Voilà.
Oui, tout à fait. C'est assez incroyable de voir les. Il y en a certains, ils ont vécu plusieurs vies en fait.
C'est
dans
ça.
Une. C'est, ouais. C'est même incroyable.
C'est incroyable. Et alors, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que vous-même, vous n'avez pas été scolarisée, Djala Maria.
Oui, tout à fait.
Oui, ce texte d'équilibre, Gialla Maria Longa, est très sincère de votre part en tant qu'auteur, mais aussi de la part des témoins qui ont raconté leur histoire familiale avec des choses parfois délicates, mais cette sincérité est nécessaire pour être totalement transparente et crédible, je dois dire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui figurent dans votre livre, Équilibre, qui vous ont donné comme ça des réactions à vif après l'avoir lu ?
Oui, en fait, c'est un travail qui est long parce qu'au départ, on se voit, on se rencontre. Au début, ils sont prudents, ils osent pas trop. Et il y en a certains qui se sont carrément livrés. En fait, moi, je prenais, c'est eux qui me donnaient, qui m'offraient ce qu'ils avaient envie de m'offrir. Et il y en a notamment, oui, qui se sont carrément livrés. Mais après, le travail n'est pas fini parce que j'écris tout. Je leur renvoie pour voir si c'est bien compris. Si on s'est bien compris. Et là, ils me valident ou pas. Donc, il y a des choses qui ont été changées. Il y a des choses où au contraire, ils en ont rajouté. Tout dépendait, en fait, de la personne, de ce qu'elle avait vraiment envie de me livrer. Et il y en a qui ont été très loin et d'autres beaucoup moins. Ça dépend de la pideur de chacun. Et ils ont été très sincères, la plupart. Et il y a aussi eu, j'ai ressenti chez eux, le même trac que je peux avoir quand je publie, moi, mon histoire ou un roman, tout simplement. Ça veut dire que, oui, on sait que l'histoire va être lue. On l'offre, quoi, on se met à nu et c'est pas évident pour tout le monde. Non.
Et là, il faut dire que dans ce livre, contrairement aux autres, où vous êtes sensible, émotive, poétique, vous essayez d'être, vous direz, parvenez d'ailleurs, plus journalistique, j'allais dire, plus fidèle à ce que les gens ont à vous dire, même si on sent bien que vous avez une empathie. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, si vous le souscrivez à ce mot. En tout cas, une espèce de connaissance parfaite de ce qu'ils ont vécu.
Il y avait la connaissance, il y avait le respect aussi. Oui. J'ai pas osé en fait le romancer, le tourner différemment, parce qu'en fait, je l'ai eu fait sur 2-3 témoignages et on me disait mais la personne ne se reconnaissait pas. Elle me disait non, je me reconnais pas, c'est pas mes mots, c'est pas moi, parce que moi j'ai tendance à vouloir romancer ou embellir les choses et des fois c'était pas le cas et du coup je me suis dit non, en fait ça m'appartient pas, c'est leur histoire. Voilà, et donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a certains lecteurs qui me disent oui, ce livre est différent.
Il est différent.
Il est différent dans le sens où c'est leur histoire.
C'est ça. C'est le vôtre parce que c'est votre regard en connaissance de cause.
Exactement.
Parce que vous avez vécu, pas exactement la même chose, bien sûr, mais ce type de mode de vie, c'est-à-dire cette espèce de vie en parallèle du système, puisqu'il y a aussi beaucoup de questions de ce mot, le système, sans qu'on donne forcément une définition précise, mais tout le monde sait, quand on parle du système, en gros, c'est l'économie de marché dans laquelle nous vivons.
Alors,
la plupart de ces gens que vous rencontrez, je pense comme vos parents, ont fait un certain effort, parfois de gros efforts, pour se mettre en marge, ou en tout cas pour imaginer, inventer d'autres façons de vivre, de gagner de l'argent, de considérer la valeur travail. C'est en ça que votre livre est très précieux, je trouve.
Oui, c'est exactement ça. On voit vraiment la quête qu'ils ont faite. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont encore là. Et le regard de leurs enfants aussi dessus, puisqu'on entend un tas de choses. Et c'est très intéressant, parce que finalement, on se rend compte que même dans la même famille, si on est 4 ou 5 enfants, on a 4 ou 5 regards différents. Malgré la même éducation.
Et c'est votre cas, vous avez
exactement, tout à fait. S'ils avaient tous écrit le livre, ils seraient carrément différents du mien.
Oui, c'est intéressant. Et alors, vous dites certains ou certaines sont restées, vous en êtes un exemple, puisque vous êtes
j'ai fait la boucle un petit
mère
peu.
De famille, ici, vous avez avec votre mari une entreprise, vous n'êtes pas seulement écrivaine, vous avez une entreprise touristique.
Oui, on accueille les gens, exactement. On aime beaucoup voyager, en fait, on a fait ça parce que moi, je travaille avec mes livres, lui, il a un boulot à côté, il est coordinateur de terrain, et ça nous suffisait pour vivre, mais pas pour voyager. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une idée, parce qu'on aime tellement rencontrer les gens et voyager. On s'est dit, on a réfléchi, on s'est dit, mais oui, on accueille les gens chez nous, dans des tentes suspendues dans les arbres, et ça nous permettra de mettre cet argent-là de côté pour pouvoir voyager.
C'est votre cagnotte.
C'est notre cagnotte.
Qui s'appelle, je le précise,
Détente.
Sky Lodge. Détente.
Détente Sky Lodge. Exactement.
C'est ça.
Les gens viennent se détendre.
À Massat.
Tout à fait.
Grand merci, Gialla Maria.
Eh bien, merci beaucoup.
Et bon succès à ce livre.
cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir écoutée. Prochaine édition de Autant de livres, le samedi 6 novembre. Chers auditeurs, à bientôt et bonne lecture au pluriel. Merci également à Rémi Calmette qui a veillé à la mise en forme de cette émission et à sa diffusion.